Aurélien, tu habites Chamonix ?
Oui.
Parfait, donc Chamonix, je l'ai appelé il y a quelques jours, il est venu, donc ça c'est quand même merveilleux. Tu parles en quelques jours, partir en voile cette fois ?
Ouais, pour la Transat Jacques Vabre, c'est une transatlantique en double, à deux, entre Le Havre et Salvador de Bahia au Brésil, qui est un peu ma deuxième passion, qui est arrivée un petit peu par hasard dans ma vie.
Génial.
Comme quoi, il y a des bonnes surprises de temps en temps.
Excellent. Donc, raconte-nous un petit peu ton histoire. Parce que donc, tu es né à Chamonix, c'est ça ?
Voilà.
Donc, tu es un petit peu né avec les...
C'est ça.
Tu es sorti avec les skis de bébé.
Un père guide de haute montagne, maman monitrice de ski. Donc, tu skis avant de marcher, en gros, globalement. Donc, c'est un peu le truc. Donc, après, enfance à peu près normale d'un jeune de station de ski, club des sports, on fait du ski et tout ça. Et puis après, à l'âge de 10 ans, en fait, j'ai découvert le saut à ski, d'abord.
Le saut à ski.
Voilà, donc je faisais du ski alpin, du ski entre les piquets, je ne sais pas si tout le monde voit de quoi on parle. Et puis après, à l'âge de 10 ans, j'ai découvert le saut à ski un petit peu par hasard, donc ceux qui font les grands sauts en longueur. Et pendant une dizaine d'années, j'ai fait que ça à fond. Je suis rentré en équipe de France à l'âge de 15 ans à peu près.
Wow.
Et voilà, et donc c'était mon focus, mon rêve de passer...
Tu t'entraînais combien d'heures par jour ?
D'heures par jour, je ne sais pas exactement, mais quand on était en équipe, c'était une quarantaine d'heures par semaine, je dirais, de saut à ski, plus l'entraînement physique à côté. Donc ça faisait pas mal, surtout à 16 ans et quand il y a l'école en même temps. Quoi.
Qu'est-ce qui fait que tu arrives en équipe de France ? À la fin, il y a quand même beaucoup de choix, il y a beaucoup de skieurs.
Non, alors clairement, déjà c'est depuis petit, c'est depuis gamin, je suis un peu dans cet état d'esprit-là, c'est de me dire, je veux être champion du monde. Voilà.
Ah donc depuis tout petit, tu
déjà depuis gamin, c'est le truc, je serai champion du monde de ski, c'est mon objectif, je regarde tous les Jeux Olympiques, toutes les Coupes du Monde.
Enfin,
je
suis vraiment ralenti, des trucs comme ça.
Bon, je me retrouve en saut à ski un peu par hasard au final, mais vraiment dans cet esprit de compétition, je fais de la compétition depuis que j'ai 5 ans, et j'en fais toujours aujourd'hui, comme quoi je crois que j'aime ça. Et donc voilà, donc j'ai toujours été un petit peu, toujours eu un peu ce rêve-là derrière, bien sûr de performer, et puis le championnat du monde. Bref, je me retrouve en équipe de France pendant des années. Et puis là, c'est un petit peu moins facile. Quoi. Je suis un peu plus grand, je suis un peu plus lourd. Donc, il faut que je maigrisse. Donc, et c'est là où le sport, c'est génial. Mais de temps en temps, il y a des sacrifices qui sont hyper durs. Et des fois, que tu n'arrives même plus à accepter.
Quoi,
c'est là où tu te retrouves. Et je pense que dans plein de personnes, on s'aperçoit qu'on n'est pas au bon endroit, au final, au bon moment. Et que c'est peut-être là où il faut se réinventer et partir ailleurs. Tout simplement, c'est qu'une fois que je mesure 1m80 et 60 kg, 63 kg, j'en fais 70 aujourd'hui. Pour info, je ne mangeais aucun régime, rien du tout, je mange tout ce que je peux. Voilà. Donc, je n'ai pas une corpulence naturelle énorme, au contraire. Et en fait, il fallait que je pèse 55 kg. Donc, j'étais au régime. Mais au régime. Le régime, salade verte, le lapin, qui ne mange rien, tu vois. Pas de sauce. Bon, bref. Et en fait, je me retrouve là-dedans et tu rentres dedans. Et en gros, t'as plus qu'un truc qui t'obsède, c'est faire ton entraînement, faire ton saut à ski et pas manger. Faire ton entraînement, faire ton saut à ski et pas manger. Et je te jure qu'à 18 ans, tu deviens dingo. Mais hyper vite. Parce qu'en fait, il n'y a plus de...
Il n'y a plus de plaisir d'un coup.
Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. Et en fait, je me suis rendu compte de ça un jour un petit peu par hasard, où mon père voyait bien que j'allais pas bien. Mon père qui est de haute montagne. Et puis il m'a dit, écoute, Auré, viens, on va se promener en montagne. Et on est parti se promener en montagne. Et en gros, c'est cette journée-là qui m'a sorti du truc, qui m'a dit, mais en fait, oui, la compétition, c'est bien, oui, j'aime ça, mais au final, ce que j'aimais le plus, c'était la montagne, c'était la neige, c'était l'hiver. Et au final, je me suis aperçu ce jour-là que tout ce qu'il y avait dans le saut à ski, il n'y avait plus rien à voir avec la montagne et avec mon ADN de départ, ce que vraiment j'aimais. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté et j'ai dit, maintenant, on va se réinventer et faire autre chose. Voilà.
C'est bien ça.
Et du freeride.
Donc c'est là où c'est venu le freeride.
Voilà, et c'est de là que j'ai commencé le freeride, à l'âge de 20 ans en fait.
Donc, explique-nous vraiment, c'est quoi le ski ride ?
Alors le freeride, c'est très simple, vous avez vu les images, c'est, donc, c'est le ski un peu en dehors des sentiers battus, le ski hors piste. Et voilà, le but quand on voit une compétition, c'est que les organisateurs choisissent une montagne, il y a un point de départ, un point d'arrivée, et il faut faire la plus belle descente possible, c'est pas une descente qui n'est... une descente qui n'est pas chronométrée, mais qui est jugée. Donc, souvent, différents critères.
Il faut que ce soit la plus belle possible, éviter de tomber, etc.
Voilà, le contrôle, la ligne qui est choisie, l'agressivité, l'engagement, la technique, enfin voilà.
Est-ce que tu peux le faire plusieurs fois avant ?
Non, voilà, exactement. C'est la particularité du freeride et ce qui rapproche vraiment, je trouve, ce sport-là qui est particulier par rapport à l'autre, c'est qu'on n'a pas le droit de répéter en avant. Donc, on n'a pas le droit de monter sur la montagne, de skier la montagne. Donc les images que vous voyez, c'est la première fois qu'on descend. Donc on repère uniquement visuellement et à la jumelle le chemin qu'on va faire. Et donc c'est un sport qui demande quand même pas mal d'expérience. Parce que quand on regarde à la jumelle à 200 mètres, savoir si le rocher il va faire 8 mètres ou 15 mètres, eh ben des fois on a des bonnes surprises à la descente.
C'est bonne ou des mauvaises?
J'aurais dit moins. C'est trop tard.
C'est trop tard.
Donc
typiquement, tu peux aller jusqu'à 15 mètres, c'est ça? Ou c'est plus parfois?
Ouais, alors tu peux aller un peu plus haut que 15 mètres, mais alors déjà 15 mètres, c'est un dossier. Hein. C'est à peu près ça, je pense.
C'est ça.
Je sais pas, demander tout ça, mais c'est à
pas
peu
mal,
près,
tu sautes de ça.
C'est à peu près 15 mètres. Voilà, mais bon, tout ça, tu le fais pas du jour au lendemain quand même, quoi. C'est un truc qui se fait progressivement. C'est qu'au début, j'ai sauté 50 cm. Et puis, d'année en année, on est monté 5, 10, 15. Parce qu'on était prêt physiquement, techniquement, et que d'un coup on avait les possibilités.
Voilà. Est-ce que t'as parfois peur ?
Est-ce que j'ai peur ? Non, je pense pas. Parce que pour moi, la peur, c'est un vrai frein. C'est à partir du moment où si je me dis bon, ben, j'y vais, mais j'ai peur, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc où je suis pas sûr de moi, et donc ça va pas. Donc j'essaye d'évacuer ma peur avant. Bien sûr, le matin, ou je dirais la veille, quand j'arrive, je vois la montagne, on parlait de l'extrême de Verbier, je crois qu'il y avait des images, c'est en Suisse, c'est la finale du championnat du monde, c'est un espèce de triangle magnifique, ça fait 55 degrés, ça fait 800 mètres de haut, il n'y a que des cailloux quand tu regardes d'en bas, quand tu regardes d'en haut, bah, c'est tout blanc parce qu'il y a de la neige dessus, sur les cailloux, et effectivement la montagne elle fait peur, là tu dis j'ai peur, mais en final bah, tu vas la travailler ta peur jusqu'à que tu te sentes à l'aise, jusqu'à que tu te sentes en un peu en harmonie avec cette montagne, et que tu vas réussir à te sentir bien et à prendre confiance et être sûr de toi et sûr de tes choix.
Intéressant, donc c'est quelque chose qui te fait peur. Au lieu d'essayer de dire « j'ai pas peur », tu vas plutôt essayer de rejoindre cette peur-là.
Ah ouais, non, exactement.
Tu vas te mettre en harmonie
avec. C'est pas dire
«
j'ai pas peur », parce que si tu dis « j'ai pas peur », c'est qu'au final, les potentiels problèmes, tu vas pas au final les affronter ou les masquer. Après, on est dans un élément où il y a un moment, si tu fais n'importe quoi, c'est pas, tu perds pas de l'argent, tu perds ta vie, quoi. Donc c'est quand même particulier. Donc il y a un moment, oui, effectivement, ouais, bah ça fait peur. Bon, bah alors comment faire en sorte que cette peur, en fait, j'arrive à la maîtriser et à l'intégrer.
Et comment donc, tu fais ça concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes quoi? Tu fais quoi?
Je regarde l'ensemble des choses. Déjà, je passe du temps à regarder, à voir ce qui me parle sur la montagne, tu vois. Ça peut être un passage ici, un petit passage là, un caillou que j'aime bien, tiens, je dis ça serait joli à sauter, des choses comme ça. Et qui, bien sûr, par rapport, après il y a toujours un côté compétition, par rapport aux critères, qui peut rendre quelque chose de bien, mais surtout quelque chose que tu as envie de skier. Que tu te dis, tiens, si j'arrivais à réaliser ça, ça doit être génial d'être capable de la skier de cette manière-là. Et de là, tu vas détailler vraiment quasiment chaque virage. Tu vas imaginer l'ensemble des virages, l'ensemble des sauts.
Tu visualises en quelque sorte, tu l'imagines. Ouais.
Bon, après, tout ça, on visualise. Donc, je visualise, j'ai toute ma course dans ma tête. Un virage, deux virages, tac, là, virage droit, virage pied gauche, hop, saut, tac, je me pose, virage pied droit, je ralentis un peu, re-saut, tac, tac. J'ai fait 10 ans de freeride sur le championnat du monde. J'ai gagné deux fois le championnat du monde et d'avoir réussi exactement la course que j'avais imaginée, ça m'est arrivé une fois, en 120 courses peut-être, tu vois.
C'est intéressant, donc c'est jamais la course que tu as vue, mais tu en avais besoin pour te rassurer.
Non, mais c'est-à-dire que il y a un moment où tu peux, enfin tu vois, t'imagines beaucoup de choses et mais ça se passe jamais parfaitement, c'est jamais exactement ça, ou c'est extrêmement rare. Comme je dis, ça m'est arrivé une fois où c'était magique et d'un coup c'était c'était la finale championnat du monde en 2011 et d'un coup c'était mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et après, ça veut pas dire que j'y suis pas arrivé, loin de là, mais même si on est sûr, même si on imagine tout, faut toujours être prêt à l'imprévu, entre guillemets. Et ils peuvent être graves des fois, très compliqués, mais gérables, si on est préparé au départ à se dire « Ok, je sais exactement ce que je veux faire ça, et si ça le fait, ça vient. » Par contre, si on ne s'est pas du tout préparé à ce que ça ne marche pas, bah, d'un coup, c'est panique à bord, quoi. Par contre, si on s'est préparé à se dire « Bon, au cas où, j'ai un petit plan B, au cas où, bon, je ralentis là, c'est pas très grave, tic-tac-tac, Ben voilà, donc toujours se dire un peu...
Au pire, voilà
okay,
ce qu'il faut faire.
Je sais, voilà, ça c'est le plan rêvé, et on va tout faire pour que ça marche, mais si ça marche pas, j'ai quand même mes petites issues de secours, entre guillemets, ou des éléments qui me permettront de gérer ces problèmes, et ce que j'ai pas...
Qui trouve ça absolument passionnant, ce qu'il est en train de dire. Et si vous avez la même chose, si vous transférez ça dans vos affaires, si vous transférez ça par exemple dans une relation de couple, et vous dites, ok, de quoi je risque ? Vous dites, peut-être que vous êtes célibataire depuis un même moment, et peut-être que vous dites, non, c'est le moment peut-être de me dire, tu sais quoi, je prends un risque, et au pire, c'est quoi ? Donc, vous avez vu comment il fonctionne ? Voilà le plan rêvé. Et au pire, j'ai toujours un plan de solution. Et quand on commence à regarder ces deux solutions, la peur diminue aussi. C'est notre façon de faire. Vous faites face à la peur. Et vous essayez de, en gros, tu essaies d'en faire un ami, en quelque sorte.
C'est encore une fois, c'est pas la peur. La peur, ça fait ça. Tu vois ? Donc là, si tu fais ça... Bon, tu vas y aller parce que tu arrives à 80 km/h, donc t'as beau faire ça, ça va pas freiner tout seul, tu vois ce que je veux dire. Par contre, si tu fais ça, il y a quand même de fortes chances que tu te poses sur le dos, quoi. Alors que si tu dis... Non, mais en fait, il y a un moment quand t'as décidé d'y aller, s'engager, et ça fait partie de l'engagement, et c'est hyper important. Donc l'engagement, il est hyper important, et les sensations, bah, les sensations, tu passes un peu partout, quoi. Bon, déjà, t'es quand même assez haut dans les sensations tout le long, parce que tout va très très vite, ça... C'est niveau et voilà, émotionnel, c'est assez fort. Après, c'est ma passion, hein, donc c'est aussi assez un truc bien facile, mais c'est toujours aussi grisant, aussi passionnant. Mmh. Et puis, c'est un milieu où tu as tellement de choses à découvrir, il te faudrait bien plus d'une vie. Il y a toujours. Je pense qu'à partir du moment où j'apprends, ça me passionnera. Le jour où j'apprendrai plus, ça va sûrement me gonfler, comme beaucoup de choses, parce que c'est apprendre qui me nourrit, c'est ça qui m'éclate aujourd'hui.
La croissance.
Ouais, la croissance, grandir, apprendre. Le jour où tu stagnes, ça devient... Je sais pas, quand j'aurai trop vieux, que j'aurai mal partout, je pense que bon, je ferai autre chose. Ping-pong.
Bonheur est derrière la peur et la croissance.
Voilà.
Puis tu fais ces freerides, tu continues à le faire. Ouais. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc tu as commencé à dire, bon, qu'est-ce que je fais l'été et... Parle-nous un petit peu comment t'es allé dans la voile.
Alors la voile, ça m'est arrivé complètement par hasard. Je me suis trouvé embrigadé là-dedans et pendant un an, je me suis entraîné à fond. Et en 2011, j'ai fait ma première traversée de l'Atlantique en solitaire. Et qui a été en fait une révélation hallucinante parce que je partais vraiment en mode « je vais vivre une aventure, c'est un défi ».
En solitaire ?
Ouais, en solitaire, ouais. Bah, c'est le mieux pour apprendre au moins.
Après, c'était facile.
C'est simple, j'ai fait 10 ans de voile en 6 mois, donc c'était l'avantage. C'était que de toute façon, il y a un moment, tu n'as pas le choix. Si tu as du monde à bord, tu poses toujours les questions, les trucs, et avant, tu te débrouilles. Et donc de là est née une vraie passion, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire de la voile. Donc après, ça m'a plu, donc j'ai dit, je vais continuer à faire du bateau. Et derrière, j'ai continué, j'ai fait la Transat Jacques Vabre en 2013, le Tour de France à la voile 3 années de suite là. Là, je repars sur la Transat Jacques Vabre le 5 novembre prochain. Et puis, on va essayer de faire le tour du monde en 2020.
Et qui voit qu'il a soif de croissance, soif d'apprendre, soit qu'il est tellement heureux, on peut l'applaudir, voilà. Ça c'est top. Alors, moi, j'ai une question.
Ouais.
Quelles sont d'après toi les qualités nécessaires pour devenir un champion, un grand champion ?
Les qualités nécessaires pour devenir un champion ? Se connaître.
Qu'est-ce que tu entends par là ? Se connaître.
Bah, il y a un moment... Si on ne sait pas qu'on peut faire ça, se connaître physiquement parlant, pour devenir un champion, vraiment de se connaître, connaître ses capacités et la confiance. Il y a un moment, il n'y a que toi qui vas faire les choses. Quoi. La confiance en soi, c'est vraiment la chose la plus... moi, si je demande à quelqu'un de me faire confiance pour faire le tour du monde en 2020, dire ah oui, super, t'es skieur, il n'y a aucune. Mais moi, j'ai confiance. Moi, j'y crois en mon projet parce que je sais que je vais mettre en place les choses pour être capable de faire ce tour du monde, ou quand j'ai fait ma première transatlantique, ça faisait 6 mois que je faisais du bateau. Oui, forcément, personne m'a financé ma transat, ça, je vous rassure. J'ai même pas essayé d'ailleurs. Il y a un moment, faut être crédible, quoi. Et surtout quand tu vas demander de l'aide. Donc non, je l'ai fait uniquement sur ma confiance. Donc voilà, se connaître soi-même, être conscient de ses capacités, tu vois, se faire confiance. Un maximum, et voilà, pour essayer de grandir et rêver, quoi. Rêver parce que c'est avec des rêves, c'est avec des projets, c'est avec des envies qu'on avance en permanence. Sinon, on s'emmerde. Quand tu demandes à un enfant, tu veux faire quoi plus tard, souvent ils te sortent des trucs. Bon, alors il y a le pompier, il y a le truc, mais des fois c'est surréaliste, et je trouve ça génial parce que pourquoi pas, pourquoi pas faire un truc surréaliste. Mais voilà, si à un moment, si tu crois, si t'en veux, si tu crois en tes capacités, si tu as confiance en toi, si tu es prêt à mettre toute l'énergie qu'il faut pour y aller, je pense qu'on peut réussir n'importe quoi jusqu'à vivre sur Mars.
Excellent, ça. Tout à l'heure pour ça, excellent.